France Inter, le 7-9 de Bruno Duvic.
Bernard Thibault, secrétaire général de la CGT, est ce matin l'invité d'Inter. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Avant d'en venir à cette journée d'action contre l'austérité en Europe, je voudrais vous entendre sur la proposition de François Hollande, taxer à 75% les revenus au-delà d'un million d'euros. Quel commentaire à la CGT ?
Ce qui me surprend, c'est la virulence du propos, sachant que nous sommes, en tant que syndicat, demandeurs d'une profonde réforme de la fiscalité. Singulièrement de la fiscalité sur les revenus. Un des motifs de la mobilisation d'aujourd'hui, s'agissant de la France, c'est non à l'austérité dans toute l'Europe, c'est par exemple non à la hausse de la TVA, qui est un impôt très inégalitaire, puisqu'un direct qui ne tient pas compte des revenus réels des ménages. Et je trouve que la piste évoquée par François Hollande est particulièrement raisonnable au regard de ce que nous estimons devoir être un effort sur l'impôt beaucoup plus important pour des niveaux de rémunération inférieurs. Vous imaginez 1 million d'euros ? Et là, on entend des cris d'orfraie. On va dépecer des gens qui vont être bientôt réduits à la rue si on les écoute.
Est-ce que l'argument selon lequel ça risque de faire fuir beaucoup de particuliers, même de sièges sociaux d'entreprise, et donc au final être plus coûteux que rentable, est-ce que c'est un argument que vous jugez recevable ?
Alors une remarque, puisque vous évoquez l'évasion fiscale. La semaine dernière, et ça n'a pas été repris malgré les déclarations que nous avons faites sur le sujet, la semaine dernière, une entreprise multinationale, GDF Suez, organise l'évasion fiscale d'une partie de ses activités en décidant que les activités de stockage de 4 pays européens allaient être basées dans la comptabilité dans une filiale au Luxembourg. Le premier actionnaire de GDF Suez, c'est l'État français. Et donc je voudrais que soit mis en lumière cette situation où le gouvernement, dans le même temps où il impose une hausse de la TVA, impôt indirect à tous les Français qui va porter préjudice sur le pouvoir d'achat, sur la consommation, décide d'organiser l'évasion fiscale dans une de ses entreprises.
Je précise que sur cette question que vous avez déjà évoquée, GDF Suez dément. Vous maintenez les propos ce matin sur France Inter.
C'est tout à fait clair. Les documents officiels transmis au comité d'entreprise qui a été consulté la semaine dernière précisent que parmi les arguments qui justifieraient l'installation de cette filiale au Luxembourg est écrit noir sur blanc les bénéfices escomptés à partir de la politique fiscale ou des mesures fiscales auxquelles échapperait cette filiale.
Et globalement, pour en finir avec cette histoire des 75%, il y a un parfum, comme un parfum de lutte des classes dans cette campagne électorale, vous ne trouvez pas ?
Ça vous a échappé qu'entre capital et travail, depuis des années, il y avait un réel problème, et singulièrement depuis 2008, crise financière, crise économique, où les marchés, les agences de notation, qui ne sont pas des agences, vous l'avez remarqué, qui notent le comportement des pays en fonction du taux de chômage, du taux de précarité, du taux d'accès au logement, à la santé, non. On note les pays en fonction des restrictions budgétaires, la réduction des déficits publics ou des dépenses publiques. Et à la limite, vous avez encore certains groupes depuis des années dont le cours de l'action est inversement proportionnel aux annonces de suppression d'emplois. Plus vous annoncez de suppression d'emplois, plus le cours de l'action progresse. Donc une opposition capital-travail qui est une évidence et qui est, vous le savez, historiquement à la base de ce concept de lutte des classes.
Alors, la journée d'action contre l'austérité dans toute l'Europe aujourd'hui, la CGT appelle même à la grève. Si l'on prend comme baromètre les prévisions de circulation dans les transports en tant que mobilisation des salariés dans ces secteurs, bien cette mobilisation s'annonce pas massive. Qu'attendez-vous de cette journée ?
Écoutez, c'est un événement dans la mesure où, à l'unanimité, tous les syndicats d'Europe, et ça va s'exprimer dans 27 pays aujourd'hui, c'est un événement, à la veille d'un sommet dont on a peu parlé jusqu'à présent,
et
demain
où doit
et après-demain,
être négocié le traité d'orthodoxie budgétaire.
Nouveau traité européen, tous les syndicats européens disent, un, sur la procédure, c'est inacceptable. On ne peut plus avoir des traités européens qui ne fassent plus, appel ou pas du tout appel à l'opinion des peuples, des citoyens en Europe. Or, ce traité, sur le contenu, deuxième critique, prône une austérité généralisée en Europe. Il faut aller encore plus loin que les mesures nationales prises dans chacun des pays, qui sont déjà très lourdes, très sévères. En Italie, c'est le code du travail. En Espagne, c'est la réforme du droit du licenciement. En France, on a en ce moment une majorité qui modifie le code du travail sur le respect des horaires et des rémunérations. On considère aujourd'hui que le contrat de travail ne doit plus représenter une sécurité juridique pour le salarié.
Ce sont les accords compétitivité-emploi en discussion.
Même avant cela, puisqu'il y a une un article de loi proposé par M. Warsmann, adopté par la majorité politique actuelle, qui modifie le code du travail actuel. Aujourd'hui, un salarié peut exiger le respect de son contrat de travail sur les horaires et sur son salaire. Il peut même avoir recours au prud'homme s'il estime que les clauses ne sont pas respectées. Ce qui est prévu dans cette modification de loi, c'est qu'un salarié ne pourra plus s'opposer à des modulations horaires ou de rémunération si un employeur obtient un accord collectif dans l'entreprise pour faire ces modulations. C'est donc rendre les salariés encore plus dépendants du bon vouloir des employeurs. Et nous avons eu des cas récents d'entreprises où on a cherché à convaincre les salariés que s'ils acceptaient une modulation de leur rémunération, de leur salaire. Pendant un ou deux ans, ils allaient maintenir l'emploi. Et puis, à l'expérience, ces entreprises ont fermé. On est donc dans un chantage, pour nous, inacceptable. Donc, c'est un événement d'avoir une action, et nous l'avons décidé en ce sens, à la veille d'un sommet européen, pour dire aux chefs d'État, vous ne pouvez plus continuer à procéder ainsi, élaborer des traités sans que les citoyens soient davantage
associés. Vous appelez un référendum, donc?
Ben, écoutez, je trouve assez extraordinaire que le président de la République trouve le moyen de laisser entendre qu'à l'avenir, parce que là on est dans les engagements de campagne qui ne nous coûtent pas grand-chose, il consulterait davantage les Français, y compris par référendum, il se fait même l'avocat du référendum, sur des questions qui manifestement sont particulièrement complexes, mais je dirais dans le contexte actuel accessoires, mais par contre que sur un traité européen, il réponde immédiatement « non, ça c'est pas question, le sujet est trop complexe pour nos concitoyens ». Ne serait-il pas louable que sur un traité européen qui est, par principe, un choix, une décision politique majeure qui engage l'ensemble du pays, on doive consulter l'ensemble des citoyens?
Donc ça, c'est pour la forme. Sur le fond, pour qu'on vous comprenne bien, non à l'austérité dans la bouche du secrétaire général de la CGT, ça veut dire quoi? La plupart des dirigeants des gouvernements disent « il faut faire des économies, on n'a pas le choix ».
Ça n'est pas que dans la bouche du secrétaire général de la CGT. Je réinsiste sur le fait que c'était une opinion unanime de tous les syndicats européens. Ce choix traité européen qui impose des restrictions budgétaires, un encadrement des politiques nationales pour des restrictions, nous mène à la récession. Il n'y aura pas de développement économique sur la base du moins-disant social. Or, c'est ce qui se produit. Il faut plus de flexibilité du travail. Il faut moins de dépenses sociales. Il faut permettre aux employeurs plus de facilité, autrement dit, les aides d'aujourd'hui ou les facilités sur les codes du travail vont provoquer l'emploi de demain. Non, ça nous mène à notre perte, et c'est un diagnostic partagé, sachant qu'il n'y a pas, et c'est là que nous avons une attente à l'égard d'Europe, il n'y a pas de projet commun qui donne une dimension sociale à l'Europe. On parlait d'Europe sociale de marché, c'est une Europe de marché, ça n'est pas une Europe sociale, et si nous manifestons ensemble dans tous les pays européens aujourd'hui, c'est aussi pour exiger des chefs d'État qu'ils prennent une dimension sociale dans leurs décisions.
01 45 24 7000 et franceinter.fr pour vos questions à Bernard Thibault, secrétaire général de la CGT, invité de France Inter jusqu'à 9h. Nous nous retrouvons après la revue de presse.
Le 7-9 de France Inter. Bruno Duvic.
01 45 24 7000, franceinter.fr pour vos questions à Bernard Thibault, invité de France Inter jusqu'à 9h-5. Bernard Thibault, on a entendu vos critiques très virulentes sur la TVA sociale, sur les accords compétitivité-emploi. Clairement, vous ne souhaitez pas que Nicolas Sarkozy soit réélu.
Oui, ça, je l'ai dit, je peux vous le répéter ce matin, ça n'est pas un scoop.
Eh bien, à propos de politique, nous avons une autre question, celle de Jean à Chartres, au Standard de France Inter.
Oui, bonjour Monsieur Thibault, et bonjour à Bruno Duvic, que j'apprécie beaucoup.
Merci.
Très prochainement, Monsieur Thibault, vous allez prendre votre retraite. Alors, si vous deviez vous investir en politique et vous présenter à des élections, quelle étiquette choisiriez-vous, le PS ou le PC?
Alors, petite précision, il n'est pas prévu que je prenne ma retraite. J'ai prévu de ne pas aspirer au renouvellement d'un nouveau mandat. Ça fera le quatrième mandat, 14 ans à la responsabilité de secrétaire général de la CGT. Je pense, avec mes camarades, qu'il est sain de procéder à un renouvellement naturel dans un fonctionnement normal de l'organisation. Ça ne veut pas dire pour autant retraite, puisque, comme d'autres salariés, après la réforme de 2010 notamment, l'âge de départ en retraite des salariés a été repoussé. Donc j'ai encore quelques années d'activité devant moi.
Voilà pour la première partie de la question. La seconde partie.
S'agissant de cette activité en question, je n'ai pas de projet particulier, mais une chose est sûre, il est exclu pour moi de m'investir sur un terrain politique pour aspirer à quelques mandats que ce soit. Je ne suis donc pas amené à résoudre ce dilemme que vous me posez quant à savoir l'étiquette politique qui pourrait être celle d'un support à un mandat politique. Ça ne fait pas partie de mes hypothèses pour l'avenir.
Vous avez été parfaitement franc il y a deux minutes, quitte à rompre la traditionnelle neutralité syndicale en disant voilà, que vous ne souhaitiez pas que Nicolas Sarkozy soit réélu. Qui souhaitez-vous voir élu? Quel est votre candidat? Est-ce que c'est Jean-Luc Mélenchon?
Un mot sur le...
Celui du Front de Gauche avec qui vous avez fait une conférence de presse commune.
Un mot parce que vous avez repris cette formule qui est un peu ressassée, pardonnez-moi, par plusieurs commentateurs. Cette traditionnelle neutralité syndicale.
Depuis 88, pour être précis. Ces 25-30 dernières années.
Tous les syndicats, d'une manière ou d'une autre, ont des expressions à l'occasion des élections politiques. Et ce qu'ils disent...
Ils ne se prononcent pas sur les candidats en tant que tels, sur des programmes, sur des idées.
Mais dire qu'on ne souhaite pas, parce que en tant que premier syndicat de salariés de notre pays, nous avons des choses à dire, notamment à l'égard d'un président de la République, certes, qui fait comme s'il n'était pas un candidat sortant déjà en exercice, ayant déjà 5 ans d'activité, c'est d'ailleurs assez spectaculaire. En tant que premier syndicat de salariés de notre pays, nous sommes à même de dire, au regard de son bilan, nous ne souhaitons pas que des drames se poursuivent dans le même ordre.
D'accord, vous êtes aussi en même de dire, au regard des programmes et des personnalités de chaque candidat, il y en a un qui a notre préférence.
Eh bien, là, à ce moment-là, nous serions dans une situation de dépendance à l'égard d'un candidat ou d'un parti politique. Dire « nous ne souhaitons pas la reconduction du président actuel », ça n'est pas être partie prenante de la campagne de tel ou tel candidat. Nous aurons une expression plus précise dans les prochains jours, mais nous allons tourner autour de cette position. À ce moment-là, effectivement, on pourrait accuser ou mettre en cause l'indépendance de la CGT.
Sans remettre en cause l'indépendance de la CGT, que pensez-vous du phénomène Mélenchon? Ces salles qui sont remplies toujours au-delà des chiffres attendus. Enfin voilà, là aussi les commentateurs, comme vous disiez tout à l'heure.
Jean-Luc Mélenchon a repris pour partie sur quelques sujets. Il l'a revendiqué, d'ailleurs il l'a assumé comme tel. Sur certaines questions, il a puisé dans les revendications syndicales et singulièrement parfois dans les revendications présentées par la CGT. C'est le cas s'agissant du salaire minimum. Il l'a dit explicitement. J'ai pris la revendication de la CGT, 1700 euros. Ça n'est pas parce que Jean-Luc Mélenchon reprend une revendication de la CGT que nous allons, inventer un différend sur ce point-là. Il reprend une revendication de la CGT. Il a aussi dit que sur la question des retraites, nous venons de faire un meeting où nous avons invité tous les partis de gauche pour leur rappeler nos revendications en matière de retraite. Je rappelle qu'en 2010, c'est la réforme qui a fait descendre dans les rues des différentes villes de France le plus grand nombre de nos concitoyens au regard de la nocivité de cette réforme. Il dit être pour, comme d'autres responsables politiques, d'ailleurs certains autres, pour un retour du droit au départ à la retraite à 60 ans. Donc, dont acte, mais ça ne nous empêche pas de dialoguer, de discuter, de voir aussi certaines convergences avec d'autres candidats.
Le cas échéant, ce droit à la retraite à 60 ans, vous en feriez un casus belli avec un François Hollande à l'Élysée?
Il n'y a pas de casus belli particulier sur quelque sujet que ce soit. La CGT porte ses revendications, essaye de mobiliser autour de ses revendications. Après, il appartient à tous les responsables politiques de les entendre, de les prendre en compte ou au contraire, de les dénoncer. Et puis on continue notre activité syndicale.
Bruce de Gelsin du service économique de France Inter est autour de cette table et vous pose une question.
Notre premier auditeur vous a parlé de votre future activité. Moi, j'ai envie de parler de votre futur successeur. Vous me dites, si je me trompe, il sera non pas désigné, mais connu lors du comité confédéral fin mai, le 31 mai. C'est juste après la présidentielle. Est-ce qu'à dire que la présidentielle peut avoir une influence sur la désignation de votre successeur?
Non, il y aura une discussion dans les instances avant, je vous rassure, de ce côté-là. Enfin, si c'est effectivement la question, avant les élections présidentielles. Donc,
Dans le contexte européen, Bernard Thibault, il y a l'histoire de cette entreprise assez peu médiatisée, Air Méditerranée, compagnie charter française en difficulté. Elle veut délocaliser 6 de ses 10 avions en Grèce. Elle propose à ses salariés de travailler en Grèce avec des baisses de salaire de 30%. Que pensez-vous de cette histoire?
C'est à la mode. C'est tout à fait dans l'air du temps des employeurs. Souvenez-vous qui hier suggéraient de délocaliser en Pologne et d'envoyer des salariés français en Pologne rémunérés au tarifs polonais. À l'inverse, on a des salariés qui sont importés en France par des filiales de grands groupes français que l'on propose ou même que l'on fait travailler à des tarifs de leur pays d'origine. Et il faut l'intervention syndicale lorsqu'on a connaissance de ces situations pour imposer le respect du droit français. tout salarié, quelle que soit son origine, quelle que soit sa nationalité qui travaille en France, doit se voir appliquer la législation sociale française. Mais c'est une bataille de tranchées et ça dépend aussi parfois de la présence syndicale. Et vous imaginez bien qu'aujourd'hui, s'agissant des organisations syndicales grecques, ils ont d'autres priorités que de faire respecter ce type de clause. Mais il est naturellement inacceptable pour nous que l'Europe soit, un support à cette mécanique de dumping social, alors que c'est toute l'exigence aujourd'hui, encore une fois, d'avoir une législation sociale européenne qui nous amène les uns et les autres vers une amélioration, alors qu'aujourd'hui, la législation européenne, par ses manques, par ses flous, permet aux employeurs de structurer de plus en plus un dumping social, un moins-disant social.
Alors, il y a cette entreprise, il y a aussi bien sûr Arcelor à Florange. Que pensez-vous de la proposition de François Hollande d'obliger un groupe qui voudrait quitter un site à accepter une offre de reprise si elle est valable, obligée par la loi?
Ça fait des années que nous menons des initiatives multiples, et je remarque que dans cette période électorale où l'on considère par habitude que l'action syndicale est un peu étouffée, absente, c'est aussi une échéance électorale qui se situe dans un environnement social et syndical hors norme. Si on parle beaucoup de l'industrie, si beaucoup de candidats visitent des entreprises aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des actions syndicales, c'est parce qu'il y a des occupations d'entreprises, parfois depuis des mois, voire même des années, pour défendre le potentiel industriel et pour défendre les emplois.
Et parce qu'il y a un déclin industriel terrible.
S'il n'y avait pas ces actions syndicales, il n'y aurait pas ces visites d'entreprises de la part de plusieurs candidats, voire même de président de la République essayant de remonter une pente très difficile sur les questions industrielles.
Sur la proposition Hollande et l'obligation...
Une chose est sûre pour nous, il faut que le législateur, à l'avenir, modifie le droit pour permettre davantage de moyens et de droits d'intervention des salariés, des représentants des salariés dans la gestion des entreprises. Il y a trop de scandales sur la manière dont les actionnaires décident, selon leur bon vouloir, de l'avenir parfois de milliers de salariés. Il y a des entreprises profitables, encore une à Saint-Junien, en fin de semaine dernière, qui fait des bénéfices, qui dégage du profit et dont les actionnaires décident de fermer le site parce que la zone de profit sera plus importante en un autre point du territoire ou dans un autre pays européen. C'est inacceptable et donc moi je suis favorable à toutes les initiatives.
Y compris celle-ci.
Il doit y en avoir d'autres qui permettent aux salariés, à leurs représentants d'avoir une intervention, un droit d'intervenir sur les choix de gestion qui ne peuvent pas exclusivement dépendre des actionnaires.
Bruce de Gadzin.
Sur Saint-Junien précisément, on vient d'apprendre que Xavier Bertrand s'attend à une rouverture dans les prochaines heures.
Ah,
c'est un miracle.
Je remarque de manière spectaculaire, et c'est pour ça que j'invite toutes les sections syndicales confrontées à des plans de restructuration dans cette période, il y a un véritable créneau, puisque le gouvernement, manifestement, est très disponible, très actif, et trouve des solutions en deux mois sur des sujets qui étaient dans l'impasse depuis 6 ou 8 mois. Donc,
vous dites
j'invite
quoi, tant
vraiment
mieux.
Tous les salariés qui ont des plans de restructuration en ce moment à se précipiter à faire des courriers à l'Élysée. C'est le moment d'obtenir gain de cause.
Bernard nous appelle de Cannes. Bienvenue au Standard de France Inter. Est-ce que vous êtes en ligne, Bernard ?
Oui, je suis là, bonjour.
Nous vous écoutons.
Bonjour Bernard Thibault, merci de prendre ma question. Bon, je préciserai que je suis entièrement d'accord avec tout ce que M. Thibault vient de dire. Par contre, il y a un point que je voulais soulever, qui à mon sens, comme je le disais tout à l'heure, n'est pas assez mise en avant et qui grève de beaucoup le budget des salariés et qui vient en plus, si je puis dire, c'est le prix des carburants. Alors, ce que je voudrais savoir, c'est ce qu'en pense M. Thibault, et surtout, s'il y aura un gouvernement qui prendra un peu la responsabilité lorsqu'on sait que sur un litre de carburant, il y a à peu près, je crois, j'ai pas le chiffre exact,
80% de taxes. Oui.
De taxes. Est-ce qu'il y aura un gouvernement qui acceptera enfin un jour de nous baisser le prix de l'essence en baissant les taxes?
On va laisser Bernard Thibault vous répondre.
C'est quand même très très important sur le budget, par exemple, d'un jeune qui doit acheter une voiture, comme un de mes fils, par exemple.
Laissons Bernard Thibault vous répondre, et comme ça, on pourra prendre une autre question au Standard de France Inter.
Oui, je comprends, parce que ça participe de ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire le poids des prélèvements indirects qui ne tiennent pas compte des ressources réelles. Tout à l'heure, la chronique mettait en avant les critiques nombreuses, apparemment, ou répandues, selon lesquelles il ne faut pas taxer trop les riches. Une chose est sûre, c'est que ces dernières années, on taxe de plus en plus ceux qui ne sont pas riches, voire même les pauvres. Un salarié sur deux ne gagne pas 1500 euros par mois dans notre pays. Alors je veux bien que ceux qui gagnent plus d'un million d'euros par an s'effraient de la taxation. Or, cela, lorsque le gouvernement, le chef de l'État, a décidé d'une taxe supplémentaire sur les mutuelles, c'est pas les super riches qui la payent, cette taxe sur les mutuelles. Lorsqu'on décide d'augmenter la TVA, et lorsque le prix des carburants, qui, il faut le rappeler, sont entre 70 et 80%, selon que l'on prend le diesel ou l'essence, sont composés, le prix est composé de taxes, il est temps de s'interroger. Mais je rappelle une revendication...
Mais s'interroger pour faire quoi ? On rétablit la TIPP flottante, on encadre les prix, on met la pression sur les distributeurs.
Il y a d'une part la politique fiscale de l'État qui est interrogée. Est-il judicieux d'avoir un tel taux de prélèvement sur le tarif de l'essence ? Mais il y a une autre revendication syndicale que je souhaite rappeler, pour laquelle nous avons eu un refus de la part de ce gouvernement. Nous avons exigé qu'une mesure générale soit prise sur la prise en compte par une allocation de l'employeur, la prise en compte des trajets domiciliaires. S'ils travaillent, 80% des salariés qui ont du travail sont obligés, non pas par choix, mais sont obligés d'utiliser leur véhicule personnel pour aller au travail. Ce gouvernement n'a pas voulu rendre la mesure obligatoire, il l'a renvoyée à un accord d'entreprise. Moi, je pense qu'il serait temps que dans les entreprises, on se retourne vers les employeurs pour exiger une participation aux frais de transport, aux frais de carburant, en l'occurrence pour les salariés qui sont contraints d'utiliser leur véhicule pour leurs déplacements professionnels.
Au Standard de France Inter, Raphaël de Noisy-le-Grand.
Oui, bonjour. Bonjour, Monsieur Thibault.
Bonjour.
Je souhaitais vous entendre commenter deux petits chiffres que l'on peut lire dans la dernière version, dans la dernière parution du journal Challenge, qui est réputé pour avoir des chiffres de sources sûres, comme l'on dit, et qui concerne donc la CGT. Relativement aux années 50, il y a aujourd'hui 2,5 fois moins de salariés syndiqués sous l'étiquette CGT. En revanche, le syndicat CGT comporte 3 fois plus de salariés permanents. Pourriez-vous nous commenter ces chiffres, Monsieur Thibault ?
Je peux vous dire qu'il y a à peu près 670 000 adhérents à la CGT aujourd'hui, dont 115 000 qui sont retraités, anciens salariés retraités, et c'est de plus en plus important d'ailleurs. On voit bien que sur certaines questions, protection sociale, logement, pouvoir d'achat, il est très important, après avoir une activité professionnelle, de rester organisé pour défendre sa situation sociale. C'est pas parce qu'on est en retraite qu'on est à l'abri de beaucoup des mesures qui sont prises et qui ont un impact sur sa propre vie. Et donc, s'agissant des effectifs, je vous réponds très clairement, 670 000, je vous le fais à quelques milliers près, bien évidemment, dont 115 000 retraités. C'est une diminution par rapport à d'autres périodes historiques. Et d'ailleurs, ça me surprend beaucoup que le chef de l'État, qui tantôt nous dit...
Ce que nous dit cet auditeur, c'est voilà, moins de syndiqués actifs, plus de permanents dans les bureaux.
Ah, pas du tout. Je peux vous dire que s'agissant de la Confédération, et j'en profite pour rétablir quelques faits sur ce qui a pu être dit à l'occasion de la publication plus ou moins officielle ou clandestine
le rapport
du rapport
Perruchot.
Qui est, comment dire, tout sauf un rapport sérieux.
Dont un des chiffres qui a fuité était que 4% seulement du financement des syndicats venait des adhérents.
Oui, oui. Les chiffres de la Confédération, certifiés par commissaire aux comptes, que j'ai présentés à cette commission, attestent que plus de 70% de nos ressources à la Confédération émanent des cotisations des salariés.
Bernard Thibault, vous alliez embrayer sur Nicolas Sarkozy, il est notre invité demain. Si vous aviez une question rapide à lui poser, demain il sera au micro de France Inter.
Une question ? Non, je n'ai pas de question particulière à poser à Nicolas Sarkozy, je vous remercie, mais je compte sur vous pour, pourquoi pas, relayer un certain nombre de questions que j'ai évoquées. Posez-lui la question, comment peut-il, par exemple, prétendre à ce point s'appuyer à l'avenir sur des référendums et ne pas faire en sorte que sur un sujet aussi important, structurant pour notre vie et nos concitoyens et ceux de nos voisins, il soit inenvisageable d'organiser une nouvelle consultation ? Est-ce à dire que c'est parce que le président de la République, justement, s'agissant du dernier référendum qui s'est effectué en France, s'est efforcé d'en contourner le résultat ?
Merci Bernard Thibault d'avoir été l'invité de France Inter. Sophia Aram à suivre.